Alors, bonjour à tous, bienvenue, c'est une première, c'est la première fois que je viens là. C'est bon, ça nous dit que pour la prochaine réunion, on pourra ouvrir jusqu'à 300 personnes. voilà. Je pense qu'il y a des gens qui vont arriver un petit peu en retard. Donc moi, je vais faire une petite intervention avec un élu aussi de Haute-Garonne, que je cherche, il est là. Voilà. Et ensuite, nous irons sur la présentation des différents intervenants. Bon, donc du coup, quand même un petit historique. Hein, quand on a fait les inscriptions, on a eu un peu des allers-retours parce que finalement, on a ouvert un tout petit peu trop longtemps et puis on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'inscrits. Donc il y a eu des allers-retours. Désolé, c'était pas très clair. Mais en tout cas, c'est bon signe puisque ça veut dire qu'un certain nombre de personnes étaient intéressées par ce sujet-là. Il y a aussi des gens qui sont inscrits qui ne sont pas venus, donc ça nous pose question sur la fois prochaine puisque nous ambitionnons de faire une grande journée sur l'eau et l'eau potable et la dite potabilité de l'eau fin juin. Et donc on verra peut-être à cet endroit-là et avec une plus grande échelle et plus d'intervenants. Et donc ça pose question sur la différence entre ceux qui s'inscrivent et ceux qui viennent vraiment. Donc on fera peut-être un peu différemment. Si on faisait une inscription gratuite, payante, la seule raison, ça serait un peu aussi pour être sûr du nombre de personnes qui viennent, de manière à ne pas prendre de place pour d'autres personnes. Donc cette journée, elle peut avoir lieu parce qu'effectivement, nous avons un certain nombre de financeurs qui nous suivent. Il s'affiche, hein, l'Agence de l'eau, la région, le département de la Haute-Garonne, et puis également les DREAL et le Fonds de développement de la vie associative. Et par ailleurs, donc, on obtient des cofinancements sur des programmes qui sont, quand c'est l'Agence de l'eau, entre autres le programme Sentinelle de l'eau, avec tout un déroulé de webinaires. Et comme je disais, l'année prochaine, on a aussi un fil rouge qui sera plutôt sur l'eau potable. Donc, en premier lieu, ce que je veux remercier, c'est le département de la Haute-Garonne qui, en deux jours, nous a confirmé que nous pouvions venir ici et qui nous soutient depuis de nombreuses années. Donc, vraiment, merci beaucoup et on apprécie beaucoup aussi une espèce de collaboration, d'échange d'informations. Pour nous, c'est important. Et donc, Monsieur Clotte, je vous laisse la parole pour ouvrir cette journée.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis Julien Clotz, je suis délégué, donc élu au conseil départemental sur un canton toulousain, délégué aux mobilités actives et aux politiques de l'énergie pour le conseil départemental. Mais en réalité, nous sommes trois mousquetaires à animer le sujet de la transition ou bifurcation écologique, comme on le dit maintenant, au conseil départemental avec Monsieur Bourreau et Monsieur Victor Denouvion qui a remplacer Monsieur Fabre à la vice-présidence. Donc je voulais vous souhaiter la bienvenue dans cette salle de l'Assemblée où habituellement les élus délibèrent pour les destinées du conseil départemental. Alors je ne vais pas être très long parce qu'effectivement apparemment les intervenants ont beaucoup de choses à vous dire et intervenantes. Simplement pour si vous êtes là, c'est que je pense que nous avons toutes et tous conscience de l'urgence d'agir pour la biodiversité et la lutte contre le réchauffement climatique. Et pour ça, on a besoin de s'appuyer sur des connaissances fiables dans une période où l'information est questionnée ou remise en cause avec des fausses informations. Et on a besoin de toutes les forces quand les avancées sont remises en cause au niveau européen, voire mondial, par des personnes qui s'y opposent bien sûr, ou voire même quand on est accusé d'éco-terrorisme et que les militantes et les militants sont inquiétés quand d'autres ne le sont pas. Mais je pense qu'il va y avoir, vous allez présenter quelques images là-dessus, et on est bien conscient de ça, et c'est pour ça que on a besoin de toutes les forces pour pouvoir agir pour le bien des êtres vivants de cette planète. Et donc c'est bien d'être nombreux aujourd'hui. Dire également que le conseil départemental est fortement engagé dans la transition écologique. Comme j'ai dit, maintenant on parle de bifurcation écologique, où on a mis en place deux actes à partir de l'année 2017, 2017-2020, puis 2020-2024. On a pris un certain nombre d'engagements, que ce soit en faveur de la biodiversité, avec les espaces naturels sensibles, les zones humides, avec les classements d'un certain nombre d'espaces, un plan arbres et forêts, l'accompagnement des agriculteurs, agricultrices avec des conseillers agro-environnementaux sur la gestion de la ressource en eau dont vous allez parler beaucoup aujourd'hui. Je voulais souligner le projet de territoire Garonne-Amont que nous animons pour préserver la ressource en eau, prévenir les déficits hydriques face au risque accru de sécheresse et repenser collectivement l'usage de l'eau. C'est un travail qui est fait avec les parties prenantes de manière constructive dans un dialogue citoyen et c'est quelque chose qui est réussi, qui marche bien et ça serait bien qu'on puisse avancer sereinement toutes et tous ensemble pour le bien de nos territoires. Simplement un élément que je voulais retenir dans les mesures prioritaires engagées par le conseil départemental sur ce projet de territoire Garonne-Amont, c'est une expérimentation de recharge de nappes phréatiques de la Garonne via le canal de Saint-Martory et le lancement de diagnostics eau et sol dans une approche agroécologique des exploitations agricoles. Voilà, puisque ça rejoint le sujet d'aujourd'hui. Donc, effectivement, on est en phase sur pas mal de sujets. Et donc, je souligne l'importance et la qualité du partenariat qu'on peut avoir entre le conseil départemental et France Nature Environnement. Pour finir, on travaille aussi sur l'énergie avec l'isolation des bâtiments, l'aide à l'isolation des logements des particuliers ou des logements sociaux. On anime des espaces conseil énergie sur notre territoire délégataire, etc., etc. Et sur la mobilité, sur laquelle j'interviens plus particulièrement, soutien au transport en commun sur la métropole toulousaine, réseau express vélo et réseau secondaire pour les vélos, aire de covoiturage, soutien au CERM, service express régional métropolitain qui a du mal à aboutir. Voilà, néanmoins, on est engagé sur tous ces sujets. Je ne vais pas être beaucoup plus long, mais en tout cas, c'est pour dire qu'on est vraiment engagé dans ce sujet de la bifurcation écologique et donc en partenariat avec France Nature Environnement depuis plusieurs années. Donc, bonne continuation à vous. Voilà, je voulais vous souhaiter une bonne journée de formation et que nos forces puissent s'unir et être efficaces pour la préservation de nos ressources. Voilà, bon travail, bonne journée. Merci.
En fait, je vais faire un compliment à la Haute-Garonne, c'est que vous êtes un des rares départements à avoir des conseillers agricoles. En fait, vous en avez une vingtaine, sauf erreur de ma part, 27. Et ça, c'est un atout très, très important qui, du coup, ruisselle sur tout ce que vous mettez en œuvre. Parce qu'en fait, c'est ça la difficulté, c'est que dans les autres départements, il n'y en a pas. Donc, tout est dans les mains des chambres d'agriculture. Alors, on va juste avancer un tout petit peu. Elle est où ta flèche sur ton... Voilà. Non, on n'est pas. Voilà. Est-ce qu'on peut éteindre un peu sur le devant? Parce que je pense que pour les présentations, ça va être un peu compliqué. Ils sont où les boutons? On fait des essais? Il n'y a pas de bouton. Bon, c'est pas grave. Je vais continuer à commencer. On ne sait jamais s'il y en a. Pour moi, ce n'est pas grave, mais c'est plus pour les intervenants qui ont des croquis ou des choses comme ça. Très rapidement sur France Nature Environnement, je pense qu'à peu près tout le monde, vous nous connaissez. Simplement, cette image pour vous rappeler que ça fait 50 ans que nous existons. Au départ, c'était l'Unimat. Après, ça a été... Oui, c'est très bien. Comme ça, vous voyez bien ce bel arbre. Et en fait, vous le voiliez. Ah, oui. Ça va changer. Donc, en fait, on va les laisser faire. France Nature Environnement, donc, on a vraiment un tronc commun. Et c'est pour ça que je vous ai mis un arbre aussi. Et on est porté par deux gros versants, toujours des salariés qui contribuent à mener les actions, à apporter d'expertise, à accompagner aussi des stagiaires, des services civiques. Et de cette manière-là, nous essaimons aussi par rapport aux valeurs que nous portons. Donc ça, c'est très important pour nous de voir passer des jeunes chez nous. Ça nous permet aussi de savoir qu'après, ils vont diffuser eux-mêmes. Voilà, aujourd'hui, on a avec nous une élève avocate qui est ici présente aujourd'hui. Et donc, c'est aussi de notre rôle d'accueillir tous ces stagiaires. C'est important. Et l'autre volet, bien sûr, c'est le réseau bénévole de toutes les associations de l'ex-Midi-Pyrénées, avec des bénévoles qui sont souvent très avertis et qui travaillent sur les dossiers qui sont présents dans les différentes commissions départementales un peu partout, également présents dans des commissions régionales, hein, l'ADEME, la CRE, enfin, il y a que l'embarras du choix. Et au final, ça représente en fait une force, une information et une contribution très importante. Et au niveau national, c'est clairement FNE qui a la plus grande contribution dans les organismes départementaux, dans les commissions. Donc c'est vraiment notre spécificité, on va dire. Alors, grosso modo, on fait ce que font les associations de protection de l'environnement. Je me suis fait plaisir, je vous ai mis une belle zone humide avec de l'ail des ours, qui est dans les Hautes-Pyrénées, et c'est un endroit vraiment magnifique. Donc on fait de la sensibilisation, nous faisons des expositions. Est-ce qu'elles sont là ? Voilà, donc vous pourrez voir deux expositions très récentes que nous avons faites, l'une sur les perturbateurs endocriniens, l'autre sur manger, c'est aussi préserver l'environnement d'une certaine manière. Donc l'illustrateur est ici présent, si vous avez des questions, c'est Jérôme qui est là. Et puis voilà, donc ces expositions, nous en avons plein. Il y en a une sur le Grand Tétras qui sort, sur la préservation des milieux montagnards. On en a sur le gaspillage alimentaire, sur l'eau. Donc elles circulent pas mal dans les collectivités, puisqu'elles sont prêtées, louées, ça dépend. On en a une très grande sur la pollution lumineuse également. Donc ça, c'est un peu notre fond d'action aussi. Et puis, comme je vous le disais, je ne vais pas perdre trop de temps, nous participons à tous les débats. Quand il y a des commissions nationales de débats publics, on est sollicité. Et on a vraiment à cœur de promouvoir les solutions et surtout de promouvoir la connaissance. Et donc des journées comme ça aujourd'hui sont très importantes, car nous devons nous appuyer sur les chercheurs, les scientifiques. C'est indispensable à l'heure où le niveau intellectuel de nos élus nationaux diminue. Je trouve pas la carte, Jérôme. Voilà. Donc là, je vous ai préparé un petit texte quand même, tellement nous sommes scandalisés, c'est ce que disait M. Clotte. Donc cette carte, en fait, cette triste carte, a été publiée par Le Point, donc qui est tous les lieux où l'Office français de la biodiversité ont été attaqués. C'est-à-dire portes défoncées ou soudées, des tonnes de lisiers, des injures, des insultes, etc. Nous travaillons avec eux de manière assez étroite, donc nous savons l'impact que ça a sur eux. Et donc, ce qui est vraiment dramatique, c'est que c'est sans précédent. On n'a jamais vu de tels actes à une telle échelle au niveau national. Donc, en fait, elle inventorie tristement toutes ces dégradations et c'est réellement une chasse aux sorcières. Nous sommes dans un état actuellement qui permet cela. Donc toute l'année, en fait, ce livre, et ça c'est pas spécifique à maintenant, hein, ça fait déjà depuis le début de l'année et même encore un peu avant, mais là on est dans une forme de règle où en toute impunité, le monde agricole s'attaque à l'OFB. Et l'OFB est livrée en pâture par les services de l'État, qui bien souvent ne condamnent même pas publiquement ces agissements intolérables. Moi je suis arrivée dans des réunions avec le préfet où on a enjambé la bouse de vache devant l'OFB. Les agriculteurs qui avaient fait ça étaient là et le préfet ne dénonce même pas ces agissements-là. Donc dans tous nos départements où on assiste à ça, il n'y a vraiment aucune... c'est vraiment scandaleux. Et ce qui est très très inquiétant, c'est l'échelle, le niveau de menace. Certains des gens de l'OFB me disent « moi, j'ai plus de ligne fixe parce qu'on subit trop de menaces aussi par téléphone ». Donc on en est arrivé quand même à une impunité qui est absolument intolérable. Et pire encore, en fait, l'État maintenant revient donc sur les missions de l'OFB sous la pression exclusive de certains syndicats et remet de fait en cause la protection de la biodiversité. Simultanément, c'est le côté droit, hein, beaucoup d'associations de protection de l'environnement et principalement celles du mouvement FNE qui sont ciblées font l'objet à peu près des mêmes violences, hein, portes murées, portails défoncés, à Montauban, FNE 82, trois fois. Avec souvent aussi de lourdes charges pour réparer. Donc on est à peu près sur le même terrain, les mêmes échelles, la même fréquence. Et ça aussi, c'est sans précédent. Alors c'est pas nouveau, mais enfin, ça s'est, on va dire, régularisé. Par ailleurs, de récentes décisions de justice à Toulouse confirment même qu'il serait légitime pour certains chasseurs et syndicats agricoles, en l'occurrence en Ariège, d'attaquer de simples réunions autour de la biodiversité, et que l'envoi de CRS, le déplacement de la préfète pour s'interposer, n'est pas considéré comme une chose anormale. Donc, le constat aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment lieu de s'inquiéter. Il faut interpeller les élus, d'une part, parce qu'il y a une très très faible condamnation par les élus, y compris des élus locaux, de ces comportements, qui sont très éloignés du respect du droit et de la démocratie, qui ne dit mot consent. On en est à ce stade-là, malheureusement. D'autre part, le message véhiculé depuis des années d'un droit de l'environnement et de la protection des espèces et des milieux qui ne seraient que des freins est effectivement très dangereux, en s'asseyant sur toutes les connaissances cumulées et acquises depuis des décennies. Et enfin, parce que la politique actuelle et celle que l'on pressent à venir, avec toutes les négations de la science qu'elle contient, conduit à des politiques publiques aberrantes, contradictoires en matière de l'environnement, d'environnement et d'aménagement du territoire. Je vous cite deux exemples qui sont pleinement dans notre sujet. Le 12e programme de l'Agence de l'eau renforcera ses financements sur les pollutions diffuses, celui qui a été validé au dernier comité de bassin. Et vous entendez M. Rousseau, président de la FNSEA, qui dit haut et fort, nous n'accepterons plus les contrôles. Peut-on imaginer un code de la route sans contrôle ? Alors que des sénateurs proposent la fameuse loi de l'enfer, qui sont des lois rétrogrades et dangereuses en matière d'épandage d'herbicides et de pesticides, et que pourtant les molécules interdites, car reconnues dangereuses pour la santé, seront à nouveau resservies, ça a déjà été entériné, dans les champs et dans les cours d'eau. La redevance de nos factures d'eau, tout comme notre santé, va devoir plus que jamais payer les conséquences de ces politiques actuelles et à venir. L'état des lieux en cours du prochain SDAGE constate déjà que la qualité des eaux ne s'est pas améliorée, contrairement aux objectifs qu'elle aurait dû atteindre. Elle va de fait, dans de telles conditions, cette qualité de l'eau, se dégrader davantage. Un autre exemple, le décret de juin 2024 vient d'autoriser la destruction des zones humides pour construire des retenues collinaires. Et malgré des milliers de contributions dont nous avons fait partie sur cette consultation, bien évidemment, on a entériné ce projet, alors que l'agence elle-même, l'agence de l'eau, finance des études, des inventaires, la restauration des zones humides, et qu'elle finance aussi des retenues collinaires, paradoxalement. Donc elle va financer des retenues qui vont détruire elles-mêmes des zones humides. Donc c'est là vraiment une contradiction des politiques publiques complètement aberrante. Depuis plusieurs années, nous assistons à un démantèlement sournois du droit de l'environnement, des notions fondamentales liées aux enjeux de la préservation, tout comme le déni du réchauffement climatique, pourtant depuis si longtemps avancé par le monde scientifique, les enjeux des services écosystémiques, des milieux, la santé globale, l'indispensable biodiversité sont balayés par l'ignorance et l'ineptie actuelle. Et bien sûr, des lobbies. Où se situe donc l'intérêt général ? Il nous appartient donc de résister, de convaincre, de démontrer à des échelles locales, où il y a des élus qui sont dans le même sens que nous aussi, la Haute-Garonne nous le démontre, dans nos territoires, dans certaines instances ou gouvernances, et qu'une autre direction doit être prise. Les milieux scientifiques, la recherche, l'enseignement et les associations de protection de la nature et de l'environnement doivent s'unir et porter ensemble ces valeurs d'avenir et de protection du vivant. C'est bien ce que nous allons faire aujourd'hui, échanger, faire percoler la connaissance et poursuivre sans relâche nos objectifs, nos missions en toute honnêteté, avec bienveillance et dans l'espoir d'un futur vivable pour tous. Donc effectivement, je reste persuadée, mais peut-être que les intervenants aussi pourront nous conforter là-dedans, que nous ne sommes pas suffisamment unis, que nous échangeons pas suffisamment, que nous ne nous positionnons pas suffisamment parfois pour faire front face à l'ineptie actuelle des décisions qui sont prises. Voilà, j'espère ne pas avoir débordé, c'est le cas. Un tout petit récapitulatif sur la journée. Donc ce matin, merci beaucoup aux intervenants, parce qu'évidemment cette journée ne serait pas possible sans eux, puisque c'est eux qui vont nous apporter la science aujourd'hui. Donc ce matin, nous avons Madame Priscia Oliva, qui est là, qui va commencer la matinée. Et ensuite, nous aurons Monsieur Jacques Thomas. On prévoit effectivement à peu près une heure pour chacun, et s'ils sont d'accord sur ce principe, on les laisse dérouler leur présentation, et puis on trouvera un petit peu de temps à la fin pour quelques questions. Est-ce que c'est bon pour ça ? Voilà, et donc bonne journée. Vous pourrez profiter des expositions qui sont au niveau de là où on fait le repas. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les salariés qui sont tous présents, sauf notre juriste aujourd'hui, ont une petite étiquette. Certains membres du bureau aussi, donc nous sommes ouverts à tous les échanges. Merci et bonne journée.
Bravo.